الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثالث من شهر شعبان عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أول مجلس من هذه المجالس التي يرجى من الله عز وجل نفعها وانعقدت لقراءة وشرح هذا الكتاب العظيم الذي هو كشف الشبهات لمؤلفه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 29 avril 2017 et ceci est notre première assise et réunion dans le but de l'étude de cet écrit bénéfique, grandement bénéfique, de l'auteur, l'illustre, l'émérite, le célèbre savant, le Cheikh Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Et avant d'entrer dans l'étude de ce livre, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez tous, Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Il a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que cela veut dire qu'il a besoin de notre adoration? Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal a besoin de nous? Il enlève tout de suite cela en disant tout de suite après, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ الرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne veux pas de subsistance et je ne veux pas de non plus qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné l'existence à nous autres, les enfants d'Adam. C'est aussi pour cette raison, son adoration, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé tous les messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tous les livres. Allah dit dans le Coran, Inna anzalna alayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant le culte exclusif. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhidullah, c'est la chose la plus importante. C'est le premier verbe que l'on retrouve en lisant le Coran. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est aussi le premier ordre que l'on retrouve dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah, dans le verset 21, Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuha an-nas, u'budu rabbakum. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé, c'est la première chose à laquelle on appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au noble compagnon, le grand savant de la communauté, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les invites soit qu'ils n'adorent qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose par laquelle on commence, même si nous sommes présents au sein d'un peuple qui commettent toutes sortes de turpitudes. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala dans un peuple, celui de Quraysh, qui commettait toutes sortes d'interdits, parmi lesquels ils enterraient les filles vivantes, ils pillaient les biens de certains parmi les passagers, ils s'entretuaient, ils consommaient les boissons enivrantes et faisaient d'autres choses encore, tout aussi graves les unes que les autres. Et quand Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers versets par lesquels il en fit un messager sont les premiers versets de la sourate Al-Muddathir, l'enveloppé, où Allah Azza wa Jal lui dit: Ya ayyuha al-muddathir, qum fa anzir, wa rabbaka fa kabbir, wa thiyabaka fa tahir, wa rujza fa hjur, ila akhir al-ayat. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Proclame la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actions de la souillure du polythéisme, qui est la pire des injustices, jusqu'à la fin des versets. Les savants ont noté que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait dire et transmettre à son peuple, c'est de n'adorer qu'Allah seul. Et il devait leur interdire d'adorer tout autre que lui, avant même de leur dire d'arrêter d'enterrer les filles vivantes, de s'entretuer, de consommer les boissons enivrantes. Il devait commencer par cela. Pourquoi ? Car l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon: Atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Wa ma haqqul ibad ala Allah? Et quel est celui des serviteurs sur Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il répondit: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua alors: Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduh. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, la meilleure action que tu puisses faire dans ce bas monde, c'est bien d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Allah a dit dans le Coran: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui tient de meilleurs propos, qui tient de meilleures paroles, qui est meilleur en paroles que celui qui prêche à Allah, qui invite à Allah, Azza wa Jal, celui qui appelle les gens à adorer Allah seul, celui qui invite les gens à prendre garde, à commettre une quelconque forme de polythéisme, qui est meilleur que lui en paroles. Et lorsque Allah, Azza wa Jal, nous cite cette information à la forme interrogative, ce n'est pas en attendant de notre part une réponse. Il ne nous pose pas une question en réalité, subhanahu wa ta'ala, mais ce qui est voulu, c'est bien la négation. C'est-à-dire, nul n'est pareil ni meilleur à celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, qui appelle les autres à se soumettre à Allah. Pour cette raison, Allah Azza wa Jal envoyer les messagers, depuis le premier qui est le prophète Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une succession de prophètes qui ont porté tous le même message, celui de remplir le but de l'existence de l'homme, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, seul et sans associé. Après la fin de notre dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a laissé les héritiers des prophètes. Et les héritiers des prophètes, ce sont les savants de l'islam, les savants du haqq, les savants de la vérité, les connaisseurs du contenu et de la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah a vanté les mérites de ces savants en disant qu'ils sont ceux qui craignent Allah plus que quiconque parmi les gens. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Certes, parmi les créatures d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. Les savants sont une lampe pour la communauté dans les ténèbres dans laquelle les gens sont plongés, les ténèbres du shirk, les ténèbres de l'innovation, les ténèbres des péchés, les ténèbres de l'ignorance tout simplement. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a, par les savants, illuminé le cœur de ceux qui apprennent la religion. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces grands savants qui se sont efforcés autant que possible, tout au long de leur vie, à inviter les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est bien l'auteur de cet écrit qui est entre nos mains, alaykoum assalam, qui est le dénommé Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Auteur des célèbres écrits tels que Kitab al-Tawhid, dont Allah Azza wa Jal nous a, par sa grâce, facilité l'étude du début jusqu'à la fin. Walahu alhamdu awwalan wa akhira, wa zahiran wa batina. Et la louange lui revient exclusivement. Subhanahu wa ta'ala. Il a appelé à Allah Azza wa Jal et a transmis son message et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa da'watu ila Allah Azza wa Jal takunu bi tariqatayn. Le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala se fait de deux façons. Ad-da'watul mujmala wa ad-da'watul mufassala. L'appel à Allah Azza wa Jal général, global, celui qui n'a pas de détails. Et la deuxième façon, c'est l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala en détail. Et ne pas laisser les choses de manière générale dans leur globalité. Non, mais plutôt de détailler les questions lorsque l'on parle de licite et d'illicite. Eh bien, Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens, les adeptes de la Sunna et du groupe qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi les pieux prédécesseurs, ont suivi cette voie tracée par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah, qui consiste à appeler les gens à Allah Azza wa Jal avec détail et ne pas se contenter de la généralité. Mais les gens de la Sunna ont pour croyance que parfois il est bon d'utiliser la généralité afin d'attirer ton interlocuteur, celui à qui tu t'adresses, et de progresser avec lui dans le but de détailler ton prêche lorsque tu vas l'inviter à Allah Azza wa Jal. Et tu ne dois pas te contenter de dire le tawhid est une obligation, le shirk est un interdit. Tout comme tu ne dois pas te contenter de dire la sunna est une obligation, son suivi, sa mise en pratique est une obligation, et la bid'a est une interdiction, car nul ne serait capable ni ne pourrait te contredire dans de tels propos. Mais le but, c'est le détail. Telle action fait partie de la sunna, telle autre fait partie de l'innovation, telle action fait partie du tawhid, telle autre action fait partie du polythéisme. Et plus tu vas détailler, plus les savants ont détaillé, ont donné des détails lorsqu'ils ont appelé à Allah. Ils ont dit, voici les mérites de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque dit la ilaha illallah obtiendra telle récompense. Quiconque meurt en n'ayant rien associé à Allah obtiendra telle récompense. Après avoir fait cela, ils ont détaillé. Ils ont dit, après avoir compris cela, sachez que celui qui invoque un autre qu'Allah Azza wa Jal en lui demandant ce que seul Allah est capable de donner a commis du shirk. Que cet autre soit un individu vivant, mort, un objet inerte, un arbre, un rocher, toute autre chose, que ce soit le fait de le solliciter en dehors d'Allah Azza wa Jal, en sa présence ou en son absence, tout cela relève du shirk. Et tous ceux qui ont suivi tel et tel dogme erroné qui appelle à cela sont dans l'erreur. C'est comme ça qu'il faut détailler, avec science bien sûr. Aussi détailler lorsqu'il s'agit de sacrifier une bête. Il est clair que si tu dis à une personne « sacrifier une bête », est une forme de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Personne ne va te contredire dans cela. Mais il faut détailler et dire, on ne doit sacrifier seulement et uniquement au nom d'Allah Azza wa Jal et pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. On ne doit pas sacrifier en se tenant près d'une tombe, près d'un mausolée, près d'un monument vénéré. Non, on doit détailler. Que va-t-il se passer ? Que s'est-il passé du moins lorsque l'auteur Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a prêché en détail ? Il ne s'est pas contenté de généralité et de la globalité. Il a eu des ennemis. Des gens qui n'adhèrent pas à ses propos. Des gens qui n'ont pas épousé ses convictions. Des gens qui n'ont tout simplement pas accepté son message. Car il n'était pas dans leur intérêt. Il a constaté qu'il y avait des gens qui commettaient le polythéisme, qui adoraient autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il les a tout simplement invités à Allah, en détail, avec ses écrits qu'il a rédigés dans le but de les conseiller, comme les trois fondements, al-usul al-thalatha, ou kitab al-tawhid, le meilleur livre écrit dans ce domaine, le livre de l'unicité. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Après avoir écrit ces livres, après avoir appelé Allah en détail, après avoir dit aux gens telle action est du polythéisme, telle autre est de la mécréance, les gens se sont opposés à lui. Et comment est-ce qu'ils lui ont témoigné cette animosité, alaykoum salam, en répondant au texte qu'il a fait connaître aux gens et enseigné? Par des ambiguïtés. Et le shir Salih al-Shir, qu'Allah le récompense, a dit, plus tu détailles, kullama zdada tafsilu fi da'wa izdadati shubuhat 'inda al-mukhalifin. Plus tu détailles dans l'appel à Allah, azza wa jal, plus les contrevenants à la vérité, les opposants au droit chemin, vont te répondre avec des ambiguïtés. Parce qu'au début, les gens qui ne suivent pas le droit chemin invitent ceux qui les écoutent, leurs auditeurs, ils les invitent à suivre un chemin égaré. Puis un prêcheur va arriver. Celui-ci va détailler aux gens les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Les gens vont être convaincus. Que va-t-il se passer pour les prêcheurs au faux? Ils seront obligés d'inventer des ambiguïtés. Ils vont inventer des ambiguïtés dans le but de tromper leurs auditeurs, leur public, la masse des gens. C'est là que les savants de l'islam, porteurs du savoir et de la science, vont jouer ce rôle qui est un des fondements de l'islam, kashf al-shubuhat wa radduha, le dissiper les ambiguïtés et les réfuter avec science. Et certes, comme a dit le noble Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullahu ta'ala wa jazahu khayran, et je n'exagère pas si je dis que cet écrit, Kashf al-Shubuhat, est le meilleur écrit dans ce domaine. Subhanallah. Wa hadha min tawfiq Allah azza wa jal li Cheikh al-Islam. ألف كتاب التوحيد أفضل كتاب في الموضوع ثم كشف الشبهات أفضل كتاب في الموضوع رحمه الله. Cela montre l'assistance qu'Allah a donnée à cet homme Mohammed fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a écrit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, et qui est le meilleur livre dans ce sujet. Les gens ont émis des ambiguïtés pour cacher cette vérité à laquelle il a appelé. Il a écrit Kashf al-Shubuhat, dissipation des ambiguïtés, et c'est le meilleur livre aussi dans ce sujet. Vous l'aurez compris, ce livre traite des ambiguïtés véhiculées par les gens du faux. Et comme l'a dit le noble Shir Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, ceux qui ont été la cause de la propagation des ambiguïtés depuis le début, ce sont les chiites et les soufites, et les gens du soufisme. les chiites et les gens du soufisme qui ont commencé à appeler les gens à vénérer les tombes, puis à vénérer les gens enterrés, puis à leur donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en les adorant seuls et sans aucun associé. Des gens qui ont émis des ambiguïtés, qui les ont répandues et qui les ont véhiculées. Et subhanallah, l'ambiguïté, lorsqu'elle touche le cœur, elle le rend malade. Elle le rend malade et seule la science peut être la cause de sa guérison. Le savoir. Quelqu'un qui est perdu dans un désert, il avançait, il cheminait, il avait une destination bien précise. Des gens sont arrivés dans son cheminement et lui ont dit, finalement, ta destination n'est pas à cet endroit. Crois-moi, j'y ai déjà été. Regarde, tout le monde marche vers cet autre chemin. Viens avec nous, joins-toi à nous, toi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne-là? Elle lui a donné une ambiguïté. Wa alaykoum salam. Il était dans un chemin clair, il avançait. Et on lui a mis une ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté? Regarde, tout le monde suit tel chemin. C'est une ambiguïté. Mais lui, à partir du moment où il a le savoir, il a la science, il ne va pas prêter oreille à ces gens-là. Par contre, s'il est ignorant, il risque d'être touché par leur ambiguïté. De même, les prêcheurs aux faux, dans ton cheminement vers Allah, dans ton voyage vers Allah, subhanahu wa ta'ala, essaie de mettre en toi des ambiguïtés pour te dévier du tawhid pur, de la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a cité dans son écrit 12 ambiguïtés. Il a cité 12 ambiguïtés. ليست على سبيل الحصر الشبهات اكثر. Les ambiguïtés sont plus nombreuses. Ce n'est pas pour les restreindre au nombre de 12. ولكنه ذكر اصول شبهات المخالفين في عهده رحمه الله. Mais il a cité les bases des ambiguïtés des suiveurs du faux de son époque. رحمه الله. Et vous allez voir, comme le dit le dicton arabe, ma ashbaha al-laylata bil-bariha. Oh combien cette nuit ressemble à hier. C'est-à-dire que l'histoire se répète. Les ambiguïtés trouvées à son époque sont celles retrouvées aussi à cette époque, avec d'autres aussi, bien sûr. Nous allons nous baser, inshallah ta'ala, pour l'explication de cet écrit, Kashf al-Shubuhat, sur le commentaire du noble cheikh, l'immense, le grand savant du tawhid, de la sunna, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Qu'Allah azza wa jal lui fasse miséricorde. Notre but dans cela, c'est de pousser ceux qui écoutent à connaître leurs savants, à voir la science qu'ils ont, à les aimer, à prendre leurs enseignements. Car le genre de personne, comme celui qui s'adresse à vous, n'est qu'un lien entre vous et les savants. Et le but n'est que de prendre des savants la science. Il ne fait que vous amener ce que les savants ont dit, et lui est exactement comme vous, il n'a rien. Il ne fait que lire comme vous pouvez le faire. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister dans cela. Ce cheikh est le cheikh Muhammad, fils de Ibrahim. Ibrahim est le fils de Abdul Latif. Abdul Latif est le fils de Abdul Rahman. Abdul Rahman est le fils de Hassan. Et Hassan est le fils de qui? De Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. C'est donc son cinquième petit-fils. Et tous les savants dont vous entendez le nom Al-Shaykh, Al-Sheikh en arabe veut dire la famille du Sheikh. On entend par là la descendance de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Ce sont donc ceux qui connaissent le plus ses écrits, car ils sont éduqués de père en fils dans la science transmise par le Sheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Il est né, rahimahullah, dans la ville de Riyad, dans le royaume d'Arabie Saoudite. Et ceci au cours du mois Muharram, qui est le premier mois de l'Hégire, en l'an 1311. Rahimahullahu ta'ala. Il a commencé l'étude de la science à 7 ans. Il a terminé l'apprentissage du Coran avant 11 ans. Avant d'avoir atteint les 11 ans, il mémorisait le Coran et le connaissait par cœur. Il a commencé les études chez de très grands et illustres savants de l'islam. Il a appris les sciences islamiques et à l'âge de 14 ans, Allah lui a enlevé la vue. Rahimahullahu ta'ala. Il lui a enlevé la vue et il est devenu aveugle. Mais ce n'est pas pour autant que sa motivation s'est affaiblie. Bien au contraire. Il a redoublé d'efforts pour devenir un des plus grands savants de cette communauté de notre époque. Sans le moindre doute. Et il a occupé de très nombreuses fonctions et des responsabilités dans son pays, notamment le fait qu'il était l'ancien mufti général de ce pays, rahimahullah ta'ala, et beaucoup d'autres actions aussi qu'il a faites, rahimahullah ta'ala. Il a eu beaucoup d'élèves qui sont très célèbres, et son plus grand élève, le plus connu, n'est autre que le grand savant, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Lorsque le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, parlait de lui, il fondait en larmes. Chaque fois que quelqu'un lui disait, nous voudrions vous entendre parler de votre Cheikh, il commençait à dire, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, j'ai étudié chez lui beaucoup de sciences. Non, j'ai tout étudié en réalité chez lui. Puis il disait, Subhanallah, Subhanallah, il fondait en larmes. Ça, on l'entend dans les audios, où le Cheikh ibn Baz parle de son Cheikh, rahimahullahu ta'ala. Il a eu beaucoup de choses, c'est simplement pour vous donner un aperçu de sa vie, rahimahullahu ta'ala. Et il est mort, rahimahullahu ta'ala. Je vais vous donner sa date. Si je ne retrouve pas sa date, je vous la donnerai sous peu, inshallah. Quoi qu'il en soit, c'est de lui que nous allons prendre la science de l'explication de son livre, du livre du Cheikh, rahimahullah ta'ala, Kashf al-Shubuhat. Et si besoin, nous citerons aussi des paroles d'autres savants de la Sunna, comme nous l'avons fait lors de l'étude du livre ou sous le Sunna, les fondements de la Sunna, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kashf al-Shubuhat. Avant même d'entrer dans le livre, dans l'écrit, que signifie le titre? Kashf al-Shubuhat. Lorsque on traduit ce nom de manière approximative, on dira que Kashf al-Shubuhat, donc il est né, je reprends, en l'an 1311, qui correspond en l'an à l'année 1893. Qui correspond à l'année 1893 du calendrier grégorien. Et il est mort en l'an 1389, au cours du mois de Ramadan, qui correspond à l'année 1969. Il a donc eu 86 ans. Rahimahullah ta'ala. Kashf shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Que veut dire le mot kashf? Le mot kashf dans la langue arabe signifie izalatul ghita anish shay. Ôter le voile qui couvre quelque chose. C'est l'action que l'on appelle kashf, c'est le fait d'enlever un voile qui couvre, qui cache quelque chose. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Qaf, فَكَشَفْنَا عَنْكَ رِطَاءَكْ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Aujourd'hui, nous ôtons ton voile. Ta vue devient donc perçante. On parle du jour dernier. Et le voile qui est cité ici, c'est le voile de l'insouciance dans ce bas monde. L'insouciance est le fait de se montrer inattentif au but pour lequel nous avons été créés et aux ordres qui nous sont donnés par Allah, tout comme ses interdits. C'est un voile. Un voile qui nous empêche de voir la réalité, que l'on reviendra à Allah Azza wa Jal. Eh bien, le jour dernier, Allah dira, فَكَشَفْنَا عَنْكَ رِطَاءَكْ. Aujourd'hui, nous allons ôter ton voile, le voile de l'insouciance. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta vie aujourd'hui est donc perçante. Voici ce qui est voulu par le terme kashf, le fait d'ôter le voile qui couvre quelque chose. Ashubha, le terme arabe ashubha ou ashubuhat est un pluriel. Il est le pluriel du mot shubhatun. Shubha, ashubha, qu'on a traduit par l'ambiguïté, Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit والأمر المشتبه الذي لا يدرى هل هو حق أو باطل. C'est une chose ambiguë dont on ignore si cette chose fait partie du vrai ou du faux. Voilà ce qui est voulu par le terme shubha. Et le Cheikh Saleh Al-Sheikh a dit ashubha ma ju'ila shabahan bil haqq. Ce qu'on appelle la shubha, c'est quelque chose que l'on a fait ressembler à la vérité. Donc il y a dans ce mot shubha la notion de ressemblance. Qu'est-ce que l'on veut par là? On veut par là dire que des gens ont amené un faux, mais ils l'ont maquillé. Ils ont maquillé son faux. Ils ont voilé son côté faux et ils l'ont fait ressembler à la vérité. On appelle ça une shubha. Au point où l'individu ne sait plus. Il ne sait plus. Il a l'impression que cette chose est vraie. Il a l'impression que cette chose est vraie. Et il fait partie des fondements de la religion de rejeter le faux, de dissiper le voile de l'ambiguïté et de montrer à Allah Azza wa Jal le vrai. Le Cheikh Saleh Al-Sheikh a dit la budda an yujada man yaqumu bihadha al-asl. Il faut absolument qu'il existe quelqu'un qui se charge de cette obligation, de ce devoir, qui s'en acquitte. Quel est ce devoir? Dissiper le faux pour montrer aux gens le vrai. Il faut absolument, car si personne ne dissipe le faux, si personne ne réfute le shirk, si personne ne réfute l'innovation, comment les gens vont connaître leur chemin à suivre? D'autant plus que nous vivons dans une époque, nous autres, où l'ambiguïté, comme a dit le Cheikh Abdelrazak al-Badr, se répand chez les gens à une vitesse incroyable. Autrefois, lorsqu'il y avait des innovations, du polythéisme, un égarement présent au sein d'un peuple, dans un village, un pays ou un quartier, les gens peut-être du village avoisinant, d'un autre pays, en étaient préservés. Mais avec les nouveaux moyens de communication que sont l'Internet et les réseaux sociaux notamment, les sites Internet, et autres. Aujourd'hui, l'individu qui vit dans un désert avec un téléphone, il lit toutes les souillures du monde et toutes les ambiguïtés du monde. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, un suiveur de telle secte qui était isolé dans telle et telle contrée, tu le retrouves maintenant dans un endroit où il n'a rien à voir avec eux. Comment cela se fait-il? Il a eu accès à leurs ambiguïtés. Ces ambiguïtés ressemblent à ses yeux à la vérité. Il les a suivies. Son cœur s'y est attaché. Wal'iyadhu billah. Et donc, on voit la gravité des ambiguïtés. Le Cheikh Salih Ali Cheikh, hafidhahullah wa jazahu khayran, a dit que l'ambiguïté pénètre le cœur au point où elle affecte. Elle affecte, elle touche le cœur. Ala al-aqal bit-taraddud. Subhanallah. Au minimum, l'ambiguïté qui touche le cœur va faire hésiter cette personne. وَهَذَا تَجِدُهُ عِنْدَ كَثِيرٍ. Et cela, tu le retrouves beaucoup, ou tu le retrouves chez beaucoup de personnes. La personne suit un chemin droit dans sa religion. Elle prête oreille, elle écoute une ambiguïté. Elle se dit non, je sais que je suis la vérité, mais il y a un doute qui reste dans son cœur à cause de l'ambiguïté. Ce doute lui dit, peut-être que tu devrais réfléchir, tu devrais peut-être regarder finalement, ces gens ont peut-être raison. تُؤَثِّرُ فِي الْقَلْبِ وَتُمْرِضُهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. L'ambiguïté touche le cœur et le rend malade. Surtout, comme le note le shir, le fait que les ambiguïtés sont souvent rattachées au côté émotionnel, au sentiment. Mais pourquoi dites-vous que cet individu est mauvais alors qu'il est de bon comportement, il nous salue, il est au service de l'autre? Et pourquoi parlez-vous tout le temps de lui ou de ce qu'il fait comme action? C'est une ambiguïté. Cheikh Salih Al-Sheikh dit, c'est une ambiguïté. Au minimum, elle risque de faire douter la personne. La personne qui était convaincue que faire telle action est un égarement, prononcer telle parole est une innovation, on va venir lui dire, mais regarde, cet individu est connu, c'est quelqu'un de bien, c'est un homme de bien. Sentiment, pas de science. Et la plupart des gens répondent à ces côtés émotionnels. Parce que l'homme, de par son ignorance et sa faiblesse, aime tout ce qui est sentimental, émotionnel. Et il a cité comme exemple ceux qui disent « كيف يقال إن هؤلاء مشركون وهم يصلون ويزكون ويحجون » Comment pouvez-vous dire que telle et telle personne sont polythéistes alors qu'ils accomplissent la prière, alors qu'ils s'acquittent de l'aumône et font le pèlerinage? Ça, c'est une choubha. Ça, c'est une ambiguïté. Et le shir continue et dit que la plupart des gens, pour eux, accepter l'ambiguïté est quelque chose de facile. Mais la science, wal-ilm, la yuwaffaqu lahu, وَلِفَهْمِهِ وَلِصَّبْرِ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ كَانَ إِدْرَاكُهُ مُهَيَّئًا لِذَلِكَ وَلَا لَيْسَ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. Quant à la science est quelque chose que l'on ne retrouve pas chez beaucoup de gens. Et le fait d'être prédisposé à accepter la science, on ne trouve pas cela chez beaucoup de gens. C'est pour cela que les gens du faux arrivent avec leurs ambiguïtés à attirer avec eux énormément de monde. Parce que pour les gens, c'est plus facile de raconter une histoire, de les toucher dans leurs sentiments, que de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit en détail et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en détail. Et c'est pour cette raison qu'à notre époque, beaucoup de jeunes suivent les khawarij. suivent ces sectes égarées. Beaucoup de jeunes se rendent dans des endroits comme la Syrie et autres en prétendant secourir la religion d'Allah Azza wa Jal, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en cela, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils ont jeté un coup d'œil sur les ambiguïtés qu'ils ont trouvées sur Internet. Ils devaient, et nous devons tous, apprendre le haqq d'abord, apprendre la bonne croyance d'abord, et ensuite, si besoin de réfuter une ambiguïté, l'apprendre pour la comparer et voir qu'elle est fausse, et savoir y répondre et la réfuter. Mais quelqu'un qui vient et commence directement par regarder, par lire, par écouter les ambiguïtés, pensez-vous qu'il va atteindre la sunna? Non, il va atteindre l'innovation et il va penser être dans le vrai. On dit à ces jeunes-là, pourquoi laissez-vous vos frères, leur sang qui coule, ces pauvres musulmans, ça c'est une ambiguïté. Mais ce n'est pas quelque chose de scientifique. Mais les gens, quand tu touches leur cœur, s'ils n'ont pas de savoir et de connaissances, ils vont adhérer à tes paroles. C'est de cette façon que les gens du faux appellent au mal. Et c'est pour cette raison que tu peux te retrouver dans un endroit où un prêcheur va prononcer un discours rempli de faux, mais en sachant parler, en sachant toucher les cœurs. Pourquoi telle chose? Pourquoi sommes-nous là à faire telle et telle chose alors qu'il existe telle et telle autre chose? Puis tu vas voir la majorité des gens qui sont ignorants adhérer à son message et à dire c'est quelqu'un de bien, il parle bien. Et si toi tu te levais avec science pour expliquer aux gens qu'il était dans le faux, tout le monde dirait de toi que tu es égaré. Et comment est-ce que ces gens te répondront? Ils diront, mais subhanallah, tout le monde est d'accord ici sauf lui. Shubha, c'est une ambiguïté. Et le fait que tout le monde soit d'accord ne veut pas dire que ce sur quoi ils se sont mis d'accord est forcément vrai. Les gens se sont tous mis d'accord sur un péché. Est-ce que ce péché est devenu licite et permis chez Allah? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le savoir. Et c'est pour ça que les savants ont réfuté les ambiguïtés, notamment ce que l'on retrouvera dans ce livre, Inch'Allah ta'ala. C'est pour cette raison que Al-Manhaj Sahih, la méthodologie correcte dans l'apprentissage, c'est d'apprendre la bonne croyance et de ne pas aller voir dans les ambiguïtés, comme cette personne qui a demandé à quelqu'un, je t'envoie des liens sur Internet. La personne a dit a prononcé des ambiguïtés que j'ai regardées avec mon épouse. Peux-tu me trouver quelle est la réponse? Subhanallah. Mais il ne fallait pas regarder les ambiguïtés. Il ne faut pas aller te rendre malade pour aller chercher un médecin après. Il faut préserver ta santé. Il faut préserver ta santé, ne pas manger les aliments qui te rendront malade. Pour ne pas avoir à chercher comment te soigner. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Et c'est pour cela que le Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidhahullah, conseille d'étudier Kitab al-Tawhid avant d'étudier Kashf al-Shubuhat. Et précise que celui qui a étudié Kitab al-Tawhid en détail va comprendre, bi-idhnillahi, Kashf al-Shubuhat. Donc, al-Shubha, c'est ce que l'on a fait ressembler à la vérité. Cheikh Saleh al-Sheikh a dit, le fait de dissiper les ambiguïtés se fait de deux façons. Kashf al-Shubah, lahu tariqatan, ou tariqan, de deux façons. La première, al-Kashf al-Aqli, وهذا موجود كثيرا في القرآن. La première façon de réfuter les ambiguïtés, c'est par la raison. Et cela est présent dans le Coran. Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de versets de son livre, a montré par des arguments de la raison qui pousse les gens à raisonner que le shirk, par exemple, est quelque chose de nul. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Il dit dans le sens du verset, s'il se trouvait dans les cieux et la terre des divinités autres qu'Allah, les cieux et la terre auraient été pervertis. Pour quelle raison? Parce que logiquement, chacune de ces divinités voudrait être la plus grande, voudrait être celle qui décide, celle qui commande. Ces divinités seraient alors ennemis les uns des autres, et les cieux et la terre seraient pervertis. Donc du point de vue de la raison, c'est impossible de concevoir qu'il existe plus d'une divinité. Ça c'est al-kashf al-aqli, la dissipation avec le raisonnement. Et la deuxième chose, al-kashf al-shar'i, la dissipation des ambiguïtés bi-iqamat al-hujjah, avec la science, avec la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fiik. Donc, voici pour le titre Kashf al-Shubuhat. Et lorsque l'on dit Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, il s'agit des ambiguïtés émises dans le Tawhid, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, il s'agit des ambiguïtés répandues par les chiites et les soufis, qui sont parmi les premiers à avoir amené aux gens qu'il fallait adorer les tombes, qu'il fallait solliciter les morts, et qu'il fallait leur demander la bénédiction, la guérison, en dehors d'Allah Azza wa Jal, l'intercession pour le jour dernier. Wal-iyadu billah. Lorsque ils ont appelé les gens à ces voies égarées, et les savants y ont répondu avec les preuves du Coran et de la Sunna, ils ont été obligés de véhiculer des ambiguïtés pour tromper les gens et pour dire non, ces actions que nous faisons ne sont pas du shirk. Nous savons qu'Allah est le seul créateur. Shubha, c'est une ambiguïté. Nous savons qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul guérisseur. C'est une ambiguïté. Il fallait donc y répondre. Et les savants y ont répondu par les preuves du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullahu ta'ala commence donc son écrit. Le commentaire que nous allons lire inshallah a été repris par l'élève du cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le cheikh Mohammed ibn Abdurrahman ibn Qasim. Et Mohammed ibn Abdurrahman ibn Qasim est un savant qui a été l'élève de ce grand cheikh et qui a étudié le livre Kashf al-Shubuhat auprès du cheikh Mohammed ibn Ibrahim 6 fois, à la mosquée et chez lui. Puis il a écrit et enregistré dans ses cahiers tout ce que le cheikh disait. Puis avant de mourir, cheikh Mohammed ibn Abdurrahman ibn Qasim, qu'Allah le fasse miséricorde, a réuni ses cahiers, il les a ordonnés et en a fait un commentaire de Kashf al-Shubuhat à partir de ce qu'il a noté de la parole de Mohammed ibn Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala, dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'lam, rahimakallah, anna tawhida huwa ifradullahi bil-ibada, wa huwa dinu al-rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadih. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. L'auteur, rahimahullah, a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid consiste à vouer l'adoration uniquement à Allah. Et c'est la religion des messagers qui ont été envoyés par Allah à ses serviteurs. Le premier d'entre eux est le dénommé Nuh alayhi salam, qui a été envoyé par Allah à son peuple lorsque celui-ci a commis des excès à l'égard des gens pieux qui sont appelés Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq et Nasr. Le dernier d'entre eux est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs celui qui a démoli ces divinités qui étaient adorées, donc ça c'est ce que l'on va détailler, qui étaient adorées par le peuple de Nuh alayhi salam. Allah l'envoya à des gens qui s'adonnaient à l'adoration. Ils accomplissaient le pèlerinage, offraient des aumônes, évoquaient Allah abondamment, mais ils mettaient entre eux et Allah Azza wa Jal des intermédiaires dans l'adoration, en disant ce que nous voulons de ces intermédiaires, c'est qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils intercèdent pour nous, comme les anges, comme Isa, comme sa mère Maryam et toute autre personne parmi les pieux. L'auteur rahimahullah ta'ala commence par une introduction pour montrer de quoi est-ce qu'il va parler. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit que l'auteur a commencé par une introduction montrant la réalité de la religion des messagers et la réalité de ce à quoi les messagers ont appelé. Tout comme il a montré la réalité de la religion des polythéistes qu'ils mettaient en pratique. Afin que l'homme connaisse leur religion et leurs ambiguïtés. Et afin qu'il sache qu'il doit suivre la religion des messagers et non pas celle des polythéistes. Il a commencé par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et c'est ce que l'on retrouve dans le début des écrits des savants de l'islam. On appelle cette phrase la basmala, al-basmala. Lorsque vous entendez al-basmala, ou si l'on vous dit en quoi consiste al-basmala, la réponse est la suivante. C'est la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Et la basmala, on l'écrit, on la cite lors d'un écrit. Car comme les savants l'ont dit, les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été réunis et rassemblés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Mais il envoyait des lettres. Il avait des compagnons qui écrivaient pour lui. Et il leur disait, écris. Puis il dictait. Et à chaque fois, il disait de commencer par écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils écrivaient donc Bismillahir Rahmanir Rahim pour suivre le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le livre d'Allah est composé de plusieurs chapitres que l'on appelle les surahs. Et chaque surah commence par la parole Bismillahir Rahmanir Rahim, sauf une. Surat al-Tawba, surat le repentir, la surat numéro 9. Elle ne commence pas celle-ci par la basmala parce qu'elle est considérée comme la suite de celle qui la précède, la surat 8, qui est appelée surat al-Anfal, surat le butin. Les sujets se suivent, les thématiques se suivent dans ces deux sourates. commencer les écrits par la basmala, par la parole Bismillahir Rahmanir Rahim, est donc la guidée du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit wastaqarra alayhi 'amalul musannifin. Et c'est devenu une habitude, une coutume chez les auteurs de livres de commencer par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et cette parole, cette parole est une demande d'aide à Allah. Car lorsque tu entreprends quelque chose en disant Bismillah au nom d'Allah, c'est-à-dire Asta'inu Billah, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire je demande l'aide d'Allah en évoquant son nom pour ce que j'entreprends. S'il s'agit d'écrire, cela veut dire Bismillahi aktub. Au nom d'Allah, j'écris. Atabarraku bismillah bidhikri ismi, musta'inan bih, mutawakkilan alayh, taliban minhu al-aun was-sadad wat-tawfiq, an yuwaffiqani wa yulhimani as-sawab fi kitabati hadhihi. Bismillah, au nom d'Allah, j'écris. Je place en lui ma confiance. Je lui demande son aide, qu'il m'inspire la vérité et qu'il me guide dans la droiture dans cet écrit que j'entreprends. Et lorsque tu accomplis une autre action, la parole Bismillah correspondra bien sûr à l'action que tu entreprendras. Bismillah, Allah est le nom de base de tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous les autres noms reviennent à lui. Tous les autres noms sont explicatifs et détaillants du sens du nom Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, azza wa jal, c'est celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite d'être adoré par toutes ses créatures. Ar-Rahman ar-Rahim, qui a été traduit approximativement par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont deux des noms d'Allah, Azza wa Jal, qui indiquent cet attribut par lequel il est qualifié, qui est la miséricorde, Ar-Rahma. Mais il y a une nuance entre ces deux noms. Ar-Rahman, le nom Ar-Rahman, comme le dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, Dhur-Rahmatil Wasi'a. C'est le détenteur de la vaste miséricorde. Lorsque l'on dit Ar-Rahman, on entend par là celui qui a une très grande miséricorde. Ar-Rahim, dhur-rahmatil wasila, allati wasalat ila man sha'a min ibadi, azza wa jal. Et Ar-Rahim, c'est le détenteur de la miséricorde qu'il fait parvenir à ses créatures. Qu'il fait parvenir à qui il voudra de ses créatures. Comme Allah Azza wa Jal dit, Yarhamu man yasha, wa yu'adhibu man yasha. Il fait miséricorde à qui il veut et il châtie qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il commence cet écrit en citant trois noms d'Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Afin qu'Allah le bénisse, l'aide, l'assiste, le secoue et lui inspire la vérité dans cet énorme sujet qu'il va traiter et poursuivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sache qu'Allah te fasse miséricorde que le tawhid consiste à vouer l'adoration à Allah uniquement. Et ça, c'est ce que l'on verra au prochain cours. Incha'Allahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك